Lettre 51e, suite de la lettre d'Evelina. Je viens de recevoir de la part de M. McCartney une lettre des plus intéressantes, et je vous l'adresse, mon cher monsieur, persuadé que la lecture vous en fera plaisir. J'ai lieu, plus que jamais, de me réjouir de ce que j'ai fait pour cet étranger. M. McCartney a mis en ville. Madame, permettez que l'étranger infortuné que vous avez retiré avec tant de générosité du bord du précipice vienne, pénétré du sentiment de la plus parfaite reconnaissance, vous offrir, madame, ces très humbles actions de grâce et vous demander pardon de l'effroi qu'il vous a causé. Vous m'ordonnez de vivre. Je le puis maintenant, car je ne suis plus pressé de quitter le monde depuis que votre cœur compatissant a daigné soulager ma misère, depuis que j'ai la persuasion de ne plus être confondu dans la foule des malheureux. La bonté avec laquelle vous vous êtes intéressé à ma situation me donne lieu de croire que peut-être vous ne seriez point fâché, madame, d'être informé des motifs qui m'ont conduit au coup désespéré que votre présence a détourné, je dirais presque par un miracle. Je vous dois le récit de mes malheurs, mais comme les détails dans lesquels je vais entrer pourraient révéler des secrets importants, je vous supplie de le regarder comme sacré, malgré la précaution que j'ai prise de ne nommer personne. Je suis né en Écosse, où j'ai été élevé par les soins d'une mère, anglaise d'origine, et qui n'avait point de parents dans ma patrie. Je fus l'objet de toute sa tendresse. Elle me disait souvent que la vie retirée que nous menions et notre éloignement de sa famille provenaient d'une mélancolie invincible dans laquelle avait jeté le décès de mon père, mort subitement peu de temps avant ma naissance. J'ai fait mes études à Aberdeen, où je me liais d'amitié avec un jeune homme fort riche. Liaison que j'envisageais comme le premier bonheur de ma vie et qui devint pour moi une source de chagrin. Mon ami étant sur le point de quitter l'académie, se disposa à voyager et il fallut nous séparer. J'étais destiné à l'église et je n'avais d'autre fortune que celle que je pouvais acquérir par mes talents. Je n'osais donc pas même former le projet de l'accompagner. Il est vrai qu'il se serait fait un plaisir de me défrayer, mais un pareil arrangement ne s'accommodait guère avec mes principes. J'attachais trop de prix à l'amitié pour en ravaler la dignité par des obligations pécuniaires. Nous entretînmes pendant 2 ans une correspondance suivie dans laquelle nous nous confiâmes tous nos secrets. Mon ami, ayant achevé ses courses, m'écrivit de Lyon qu'il allait retourner en Angleterre et me pressa de venir le joindre à Paris, où il se proposait de faire quelques séjours. Le désir de le revoir après une si longue absence m'engagea à solliciter le consentement de ma mère. Elle eut l'indulgence de souscrire à ma demande, elle parvint à fournir aux frais de mon voyage et je partis pour la France. Le moment où j'embrassai cet ami de cœur fut le plus heureux de ma vie. Il m'introduisit dans plusieurs bonnes maisons et les 6 semaines que j'avais destinées à mon absence étaient écoulées sans que je m'en fusse aperçu. Je dois avouer cependant que la société de mon ami n'était pas le seul sujet de ma félicité. Je fis la connaissance d'une demoiselle, fille d'un Anglais de distinction, et je pris avec elle des engagements dont je lui jurais 1000 fois l'éternelle durée. Elle sortait justement du couvent, où elle avait été mise fort jeune, et quoique née en Angleterre, elle ne parlait pas même la langue de son pays. Sa figure et son caractère étaient également aimables, mais ce qui me la rendit surtout infiniment chère, ce fut la générosité avec laquelle elle s'offrit à renoncer en ma faveur aux plus belles espérances. Le moment de mon départ étant arrivé, l'idée terrible de quitter l'objet de ma tendresse m'affligeait nuit et jour. Je n'eus pas le courage d'informer son père de nos liaisons. Il pouvait se flatter raisonnablement de procurer à sa fille un établissement avantageux, et il n'aurait pas manqué de rejeter avec mépris l'offre de ma main. En attendant, je conservais un libre accès dans la maison. Ma maîtresse y était confiée à la direction d'une vieille gouvernante que j'avais réussi à mettre dans mes intérêts. Enfin, un jour que son père était sorti, il rentra l'après-dîner au moment où nous y pensions le moins. Et c'est l'époque de la misère à laquelle j'étais depuis en proie. Il avait vraisemblablement écouté notre conversation, car il se jeta dans la chambre en furieux. Mais quelle fut la scène qui suivit ? Honteux de mes complots clandestins, convaincu de mes torts, il me fallut endurer les reproches les plus insultants. À la fin, pourtant, ses emportements lassèrent ma patience. Il me donna les épithètes de gueux, de lâche écossais. Je pris feu à ses mots et je tirai l'épée. Lui, tout aussi alerte que moi, se mit en défense. Je n'avais point affaire à un vieillard, mais à un homme dans toute la vigueur de l'âge et capable de me tenir tête. En vain sa fille implora sa clémence, en vain tâchais-je de réprimer ma colère pour le calmer. Il continua ses reproches. Ma personne, ma patrie, furent chargées d'opprobre et d'ignominie. Je ne pus plus contenir ma rage, nous nous battîmes, et je le blessai dangereusement. J'étais au désespoir de ce qui venait d'arriver. La jeune demoiselle s'évanouit. La duègne, attirée par le bruit, me pressa de prendre la fuite et promit de m'informer des suites de cet événement. Le tumulte qui s'éleva dans la maison m'avertit que je n'avais plus de temps à perdre. Je m'éclipsais, agité d'un trouble inexprimable. Il était impossible que cette aventure demeurât cachée. J'en fis la confidence à mon ami. Vers minuit, la duègne vint me rapporter que son maître était en vie et que l'évanouissement de sa jeune maîtresse n'avait point eu de suite. Mon éloignement devint d'une nécessité absolue. La duègne promit d'informer mon ami de la tournure que cette fâcheuse affaire pourrait prendre et elle s'engagea de me faire parvenir des lettres par son canal. Dans ces circonstances, je quittai Paris. Les soins de mon ami favorisèrent mon départ et j'arrivai en Écosse. J'aurais préféré de m'arrêter en chemin pour être plus à portée de recevoir les nouvelles qui m'intéressaient. Mais le mauvais état de mes finances me priva de cette satisfaction. Ma situation déplorable n'échappa point à la pénétration de ma mère. Elle insista pour savoir les motifs de mon chagrin. Je ne pus me refuser à ses instances et je lui fis un récit fidèle de tout ce qui s'était passé. Elle m'écouta avec une émotion visible. Je lui nommai les personnes et son effroi augmenta. Enfin, quand j'arrivai à la catastrophe, quand je lui dis que j'avais renversé mon adversaire, elle s'écria « Ah, mon fils, vous avez tué votre père !» Et dans le même instant, elle tomba sans connaissance à mes pieds. Je n'essaierai point, madame, d'achever ce tableau cruel. Un cœur tel que le vôtre me dispensera aisément d'une tâche aussi pénible. Dès que ma mère eut repris l'usage de ses sens, elle me raconta des événements qu'elle avait espéré de couvrir à jamais d'un voile impénétrable. Hélas, ce n'était point la mort qui lui avait enlevé mon père. Lié avec elle par les seuls liens de l'honneur, il l'avait abandonné. Notre établissement en Écosse n'était point l'effet du choix de ma mère. Elle y avait été reléguée par une famille justement irritée. Pardonnez, madame, si j'abrège cette narration. Je succombais sous le poids de ma misère, et je passai une semaine entière dans un délire perpétuel. Ma mère était encore plus à plaindre que moi. Elle ne mit point de frein à sa douleur, se reprochant sans cesse le danger auquel sa trop grande réserve m'avait exposé. Après bien des efforts, je repris une assiette un peu plus tranquille, mais ce repos fut bientôt troublé par d'autres inquiétudes. Je ne recevais point de lettres de Paris, et quoique ce retard pût être causé par les vents contraires, il me paraissait insupportable. 20 fois je fus sur le point de retourner en France à tout hasard. Enfin, il arriva une malle qui me remit plusieurs lettres à la fois. Elles m'apportèrent des nouvelles capables de diminuer du moins mes chagrins les plus accablants. J'appris que je n'avais pas consommé l'horreur du parricide, que mon père était en vie, et que dès que sa guérison serait achevée, il se proposait de faire un voyage en Angleterre pour y conduire ma malheureuse sœur, qui devait se retirer chez une de ses tantes. Je résolus aussitôt d'aller au-devant d'eux à Londres, de révéler à mon père irrité le secret de cette terrible aventure, et de le convaincre par là qu'il n'avait plus rien à craindre du choix fatal de sa fille. Ma mère goûta ce projet et me munit d'une lettre qui attestait la vérité de mes assertions. Comme je n'avais pas le moyen de fournir largement aux frais du voyage, je fis ma route de la manière la moins coûteuse. Je me logeai dans un petit réduit, que vous avez eu l'occasion de voir, madame, et je me mis en pension chez mes hôtes. C'est ici que je languissais dans l'attente de ma famille. Mes espérances furent trompées, et je compris que j'avais fait une nouvelle imprudence en quittant aussi brusquement l'Écosse. Mon père était retombé malade après avoir été guéri de sa blessure, et au bout de 6 semaines, j'appris par une lettre de mon ami que le voyage avait été différé pour quelque temps. Mes finances étaient presque épuisées, et je me vis obligé, malgré moi, de recourir encore à ma mère pour la prier de m'aider à retourner en Écosse. Hélas, la réponse que je reçus n'était point de sa main. Une dame qui, pendant plusieurs années, avait été sa compagne, m'écrivit que son ami avait été attaqué d'une fièvre maligne et que nous avions eu le malheur de la perdre. Vous jugerez aisément, madame, de l'impression que devait produire sur moi tant de coups redoublés. la dame dont je vous parle m'adressait une lettre que ma mère avait écrite pendant sa maladie, avec beaucoup de difficultés à un de nos proches parents. Elle y dépeignait ma situation avec une tendresse vraiment maternelle, et elle suppliait ce parent d'employer ses bons offices pour me procurer une place. Mais j'étais tellement abattu sous le poids de mes malheurs que je laissai écouler plus de 15 jours sans penser remettre la lettre à son adresse. J'y fus contraint par nécessité. Je me pourvus d'un habit de deuil afin de paraître décemment. Je me mis en devoir de chercher mon parent. On me dit qu'il était hors de ville. Dans cet état désespéré, mon orgueil, qui jusqu'ici s'était roidi contre l'adversité, commença à plier, et je me décidai à réclamer les secours de l'ami qui m'avait offert 1000 fois ses services. Je les avais toujours rejetés, et même dans ma triste situation, j'attendis encore une semaine entière avant que de me résoudre à lui envoyer une lettre, que je regardais comme le tombeau de mon indépendance, tant il est difficile de se défaire des principes, ou, si vous voulez, des préjugés qu'on a une fois contractés. Enfin, réduit à mon dernier escalin, harcelé de la manière la plus insolente par mes hôtes, mourant presque de faim, je cachetai ma lettre et je sortis pour la mettre à la poste. Mais M. Branton et son fils m'assaillirent dans leur boutique. Ils m'insultèrent grossièrement, me menacèrent de me jeter en prison si je ne les satisfaisais pas incessamment. Leur dureté me perça le cœur, je les priai de prendre patience jusqu'au lendemain, et je les quittai dans un accablement difficile à exprimer. Je réfléchis alors que ma lettre arriverait trop tard pour me sauver de l'ignominie dont j'étais menacé. Je la déchirai, et à peine pus-je prendre sur moi de prolonger d'une minute ma malheureuse existence. Dans le désordre de mon esprit, je conçus l'horrible dessein de faire le métier de voleur de grand chemin. Je retournai au logis pour travailler à l'exécution de ce projet. Je ramassai celles de mes nippes dont je pouvais me passer le plus aisément. Je les vendis, et j'achetai de l'argent que j'en tirais une paire de pistolets, de la poudre et des balles. Mon intention n'était pas cependant d'employer ces armes contre les passants que je me proposais d'attaquer. Je ne voulais m'en servir que pour les effrayer ou même pour me délivrer d'une punition infamante au cas que j'eusse le malheur d'être arrêté. Mon intention était de me procurer l'argent nécessaire pour payer M. Branton et pour retourner en Écosse. Après quoi, je me flattais de découvrir par les papiers publics les personnes que j'aurais dépouillées et de leur restituer ce que je pouvais leur avoir enlevé, projet également horrible et insensé. Incapable de commettre une bassesse, je n'envisageais qu'en tremblant l'exécution de mon plan. Je me soutenais à peine en rentrant chez moi. Les Branton ne s'aperçurent point de mon trouble. Je termine ici mon récit. Vous savez, madame, mieux que moi, ce qui s'est passé dans la suite. Mais pourrais-je jamais oublier ce moment où, prête à commettre le crime, je disposais ces armes qui étaient destinées ou à ravir le bien d'autrui ou à me donner la mort. Vous vous précipitâtes dans ma chambre pour retenir mon bras. Ce moment était auguste. Le doigt de la Providence semblait me séparer encore de l'éternité. Vous me parûtes un ange descendu des cieux. Mon désordre et, s'il m'est permis de l'ajouter, la beauté éclatante de votre figure contribuèrent à rendre l'illusion complète. Maintenant, madame, après m'être acquitté de la tâche qui m'était imposée envers vous, il m'en reste une à remplir qui me dédommagera de ce que la première a de pénible. C'est de vous remercier, autant que je le puis, de votre bienfait généreux. Soyez sûr que j'en ferai un bon usage. Vous avez dessillé mes yeux. Je reconnais le faux orgueil qui m'a guidé jusqu'ici. À quel excès ne m'a-t-il point conduit? Je méprisais les secours d'un ami, tandis que j'étais résolu de recourir aux moyens les plus déshonorants pour en extorquer d'un inconnu, au risque de le réduire par là à une situation aussi misérable que la mienne. Et dans le moment même où vous m'offrîtes vos bienfaits, quel combat cruel n'eus-je pas à soutenir avant que de me résoudre à les accepter? Tels sont les sentiments avec lesquels je reçus vos dons. J'ai remis entre les mains de M. Branton une bague que je tiens d'une mère dont le souvenir m'est infiniment cher. Ce bijou garantit le montant de ma dette. Le présent que vous m'avez fait, madame, suffira pour mon entretien jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de mon ami auquel je viens d'écrire. Le parent que j'attends ici ne saurait d'ailleurs différer son retour de longtemps. Il y aurait de l'extravagance à vous dire, madame, que j'acquitterai jamais la dette que j'ai contractée envers vous. Je n'en suis point capable. Le service que vous m'avez rendu est de nature à rendre toute rétribution impossible. C'est par vous que j'ai repris l'usage de ma raison. Vous m'avez appris à vaincre ces passions qui me l'avaient ôté, et si dorénavant je ne puis point éviter les calamités, je saurai du moins les supporter en homme. Ma gratitude pour vos bontés sera sans borne, mais permettez en même temps que j'envisage comme une avance l'argent que vous m'avez remis et que je m'engage de vous le restituer quand je le pourrai. Je suis, madame, avec le plus profond respect et une entière reconnaissance, etc. J. McCartney.